Radio Kapi.
Huit jours de démarrage des épreuves pour l'examen d'état édition 2023 avec la dissertation. Jour particulier pour enseignants et élèves du Sud Kivu, dont une dizaine fait partie des centaines des victimes des inondations de Kalehe. Drame pour lequel le gouvernement décrète un deuil national aujourd'hui, comme vous le suivrez en début de ce journal. Actualité en rapport encore avec les épreuves d'examen d'état. Vous suivrez aussi cette garantie des autorités scolaires de Beni, région souvent insécurisée. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que les élèves ne soient point inquiétés pour leur examen. Martin Kanumbedi, expert en protection civile, est l'invité de nos journaux pour cette matinale. Les dispositions pour mieux gérer les catastrophes, c'est autour de cette question que porte l'entretien avec Radio Okapi. Tout de suite, un tour complet de l'actualité congolaise. Fidèles auditeurs, merci de votre confiance. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Cette nouvelle aventure, le président de la République démocratique du Congo et président de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC visitera le siège du secrétariat de la SADC à Gaborone au Botswana le 10 mai 2023. Félix-Antoine Tshisekedi arrivera à Gaborone le 9 mai 2023 pour une visite d'État et aura des réunions bilatérales avec Dr Mokwetsi Eric, président de la République du Botswana. Au secrétariat de la SADC, le président Tshisekedi sera reçu par le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magossi, la direction du secrétariat de la SADC et les ambassadeurs et hauts commissaires de la SADC accrédités auprès de la République du Botswana et de la SADC. Le gouvernement a décrété un deuil national ce lundi 8 mai 2023 sur toute l'étendue du territoire. Drapeau en berne en mémoire des compatriotes décédés à cause des inondations dans le territoire de Kalehe, dans le sud Kivu, le 4 mai dernier. Cette décision a été annoncée vendredi au cours de la 97e réunion du Conseil des ministres sous la direction du président de la République. Par ailleurs, les épreuves hors série de l'examen d'État 2023 auront bel et bien lieu sur l'ensemble de la province. Plus de 80 000 finalistes sont attendus pour les trois provinces éducationnelles du Sud Kivu. Pendant ce temps, les autorités scolaires du Sud Kivu déplorent la mort d'une dizaine d'enseignants, des directeurs d'école, d'élèves et d'autres agents de l'EPST Kalehe. Les détails avec Emmanuel Elamejua Kabedi.
La seule province éducationnelle du Sud Kivu 1 attend recevoir plus de 44 000 élèves finalistes pour les épreuves de dissertation de ce lundi 8 mai 2023. Pendant ces temps, la catastrophe de Kalehe a sérieusement affecté la sous-division de Kalehe 1. Cette calamité naturelle a emporté complètement les bâtiments scolaires des écoles primaires Luvungi 3, Epe Bouaire et de l'Institut Chirembera. Outre ces dégâts matériels, l'EPST enregistre la mort de trois enseignants de l'EPE Nguliro et leur directeur, trois enseignants de l'EPE Mukowa, un enseignant de l'Institut Kanyuni, son épouse et leurs trois enfants, deux agents de la DINACOP, Antenne de Nyabibwe, ainsi que le directeur de l'EPE Rubaiza. À cela s'ajoutent aussi deux élèves finalistes de l'Institut Chirembera. Le centre d'examen d'État affecté est devenu inaccessible et vite délocalisé, selon le prophète Simon Zono Ingalea. Le prophète Zono dit sa gratitude au gouverneur de province et au docteur Denis Mukwege et qui ont vite dépêché des équipes de médecins en faveur des victimes, dont les enseignants, les élèves et autres personnels de l'EPST de Kalehe. Emmanuel Elamejua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Sachez que plus de 200 corps ont été inhumés samedi à Bushushu et Nyamukumbi et les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres disparus. Une première assistance en médicaments, bâches et vivres du gouvernement provincial du Sud Kivu est arrivée sur place le même samedi. Une aide qui reste insuffisante au vu du nombre des victimes selon l'administrateur des Kalehe qui continue à appeler le gouvernement central et d'autres humanitaires à intervenir car la situation est très déplorable, affirme Archimède Kareboua. À la suite de ces drames, une délégation du gouvernement central est arrivée à Bukavu ce dimanche soir en provenance de Kinshasa. Elle est composée des ministres des Affaires humanitaires, celui du Développement rural et la ministre du Travail, mais aussi du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Leur visite rentre dans le cadre de l'assistance à apporter aux victimes de la catastrophe de Kalehe qui a fait plus de 300 morts et des centaines de disparus. La délégation se rend sur les lieux du drame à Kalehe ce lundi 8 mai en compagnie du gouverneur du Sud Kivu. La catastrophe naturelle qui arrive dans le territoire de Calais était bel et bien prévisible et même évitable. Et pourtant, un rapport portant sur le danger qui guette les habitants de cette partie du Sud Kivu existe depuis 10 ans maintenant. Il avait été établi par un groupe de géographes et autres experts en environnement. Rigobert Birembano Bahati, du département de géographie de l'ISP Bukavu, estime qu'il faut penser à un réaménagement du territoire avec délocalisation de la population et surtout penser au reboisement des collines. Rigobert Birembano au micro est au micro de Emmanuel Elamejua Kabedi.
Ce phénomène qui vient d'arriver, à Calais particulièrement, c'est pas nouveau. C'est regrettable parce que comme on avait déjà fait les rapports, il ne fallait pas encore qu'on vive la situation que nous sommes en train de vivre ici. Dans la mesure où nous sommes dans une région de montagne, il y avait beaucoup de bois au niveau du sommet des montagnes, mais aujourd'hui avec la forte pression démographique, la tendance est d'aller occuper ces espaces-là. Et avec de fortes pluies, parce que ce sont des pluies diluviennes, dans ce début de mois de mai, il y a de fortes pluies, des dizaines de millimètres d'eau, quand ils tombent dans une zone déboisée, il y a beaucoup de ruissellement et ces ruissellement-là vont rejoindre le point le plus bas de bassin versant que nous appelons les rivières, les cours d'eau. C'était la toute première solution, de demander à la population de ne pas monter sur le sommet et les déboiser. Mais l'idéal pour nous, à l'est de la République démocratique du Congo, afin que les fortes densités qui dépassent 400 habitants au kilomètre carré, serait de revoir notre aménagement de territoire, de créer des cités où on devait concentrer la population et de voir dans quelle mesure les espaces qui nous restent le long du littoral pouvaient être occupés par les communautés locales.
En rapport avec ces catastrophes, l'on signale d'autres inondations dans d'autres parties du pays. C'est le cas de la province du Kwilu à Dima, Lumbu, un des quartiers de la commune de Basoko à Bandunduville. Des inondations provoquées par le débordement des eaux de la rivière Kasai qui ont provoqué l'écroulement de plusieurs maisons et autres bâtiments officiels, laissant ainsi les habitants sans abri. Le chef de quartier Dima Lumbu, Monsi Léonard, plaide pour la construction des barrages d'eau aux alentours de la rivière Kasai afin, selon lui, d'empêcher le débordement de ces eaux. Du côté du ministre provincial en charge de l'urbanisme et habitat, l'on parle des constructions anarchiques érigées presque dans le lit de la rivière. Dans la province de la Tchopo, les activités scolaires ont été aussi suspendues depuis vendredi dernier dans la province éducationnelle Kisangani 2, dont le siège est installé à Isangi. Pour cause, la montée des eaux de la rivière Lomami qui a complètement inondé la cité d'Isangi. La première capitale de l'État indépendant du Congo située dans le village Vivi en secteur de Lufu dans le territoire de Sekebanza se trouve à ce jour dans un état d'abandon et tout en ruine. Les membres de la communauté Bamboma du secteur de Lufu vivant à Matadi qui ont effectué jeudi une visite sur ce site déplorent cette situation. Le président de cette structure, Emelu Vangu Kiowa, plaide pour la réhabilitation de cette première capitale de la RDC. Le point avec Nana Plurich Mambu.
Le membre de la communauté Bamboma du secteur de Lufu vivant à Matadi disent avoir été choqués par l'état de délabrement du site Vivi, la première capitale de l'état indépendant du Congo, du 1er juillet 1885 au 1er mai 1886. Emel Ouvangu, président de cette communauté, affirme que ce site est aujourd'hui méconnaissable et les maisons sont en ruine. Pour une première capitale, Vivi est dépourvue de tout. Atteindre ce site est un combat de titans car il n'y a plus de route. Même les chalets de Stanley qui était le symbole de cette période historique n'existe plus que des noms car incendié et dépouillé de tous ses vestiges il y a plusieurs années. Vu l'importance historique et touristique de ce site, 137 ans après l'existence de cette capitale, les Bamboma étant les ayants droit foncier de cette contrée, demandent à l'autorité de penser à sa réhabilitation. Emel Ouvangu est le président de la communauté Bamboma du secteur de Lufu vivant à Matadi.
Il faut nécessairement une route parce que pour aller à Vivi aujourd'hui, c'est très difficile. Le site étant ainsi transformé, le tourisme va faire qu'il y ait des recettes.
Selon lui, abandonner la capitale Vivi, c'est enterrer une partie importante de l'histoire politique de la RDC. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Toutes les dispositions sont déjà prises dans la province éducationnelle Nord Kivu 2 pour le bon déroulement des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2023. Épreuve qui démarre ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Assurance faite hier dimanche par le directeur de cette entité éducationnelle dans la partie Grand Nord. Salomon Chaloumo Tsambali affirme que les inspecteurs sont déjà affectés dans les différents centres pour les derniers réglages. Pour le cas des élèves finalistes déplacés venus des territoires de Beni et Lubero, le prophète de l'EPST Nord Kivu 2 rassure que rien n'est à craindre. Salomon Chaloumo explique au micro de Grévis Salomon.
Les dispositions sont déjà prises dans tous les centres. On a déjà déployé les inspecteurs sur le terrain et tout est en marche. De ce qui concerne les dispositions sécuritaires, nous avons essayé d'entrer en contact avec les agents de l'ordre. Il y a des administrateurs des territoires, il y a des maires de ville, il y a des commandants de la police ainsi que les FARDC qui sont chargés de sécuriser les enfants en chemin vers les centres des examens d'état. De ce qui concerne les enfants déplacés, nous avons essayé d'identifier ces enfants. Il a été inscrit au gestionnaire de demander au préfet des études de les récupérer sans condition. Et jusque-là, nous avons enregistré plus de 210 candidats qui sont en situation difficile, en situation de déplacement. Et ces enfants-là sont exonérés des frais des examens d'état. Aucun finaliste ne va rater les examens d'état. Les enfants ont déjà les macarons, les examens sont issus. Ils sont en train de vérifier leurs identités et leur salle de classe où ils vont passer les examens d'état. Pour les candidats, je les demande de travailler correctement et je les souhaite 100% de réussite.
Soulignons que pour cette année, la province éducationnelle Nord Kivu 2 enregistre un total de plus de 30 400 candidats repartis dans 84 centres pour passer les examens. Actualité à présent dans la province du Tanganyika, affaire question orale avec débat adressé à la gouverneure du Tanganyika. Trois membres du bureau de l'Assemblée provinciale s'opposent à cette initiative. Dans une correspondance adressée au président de cet organe délibérant, le vice-président, le rapporteur et le questeur dénoncent des irrégularités dans cette question orale et la violation du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. On écoute le rapporteur de cet organe qui est l'un des signataires de cette correspondance. Jean Pignembo s'est exprimé ce dimanche au micro de Paulin Munanga.
Il y a eu beaucoup d'irrégularités. Sur le plan de forme, l'article 162 de notre règlement intérieur a été violé parce qu'il dispose que l'auteur d'un moyen de contrôle dépose ce moyen de contrôle au bureau et non pas chez quelqu'un. Le règlement intérieur parle du bureau. Et le bureau s'est réuni pour examiner la recevabilité ou la non-recevabilité de ce moyen de contrôle. Or, pour les cas sous-examen, le bureau ne s'est jamais réuni. Imaginez-vous, nous en tant que membres du bureau, avons été surpris de voir un accusé de réception de la lettre sur les réseaux sociaux. Chose que nous considérons comme un mépris pour nous membres du bureau et plus encore une violation grave de cette disposition de notre règlement intérieur. Et si je m'attaque sur le plan du fond, l'article 163 de notre règlement à son alinéa 3, il a été aussi violé dans le sens que le gouverneur ne peut répondre que sur des questions politiques générales du gouvernement de la province. Tandis qu'ici, dans cette question orale avec débat de notre collègue, vous remarquerez avec moi sur toutes les questions posées, je pense 90% de questions ne concernent que les finances, alors que nous avons un ministre provincial de finances. Voilà pourquoi nous nous inscrivons en faux de toutes les démarches tendant à déstabiliser la province.
Rappelons que la plénière à l'Assemblée provinciale du Tanganyika pour le traitement de la question orale adressée à la gouverneure est prévue ce lundi.
Actualité internationale.
La mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAF pourrait permettre une hausse de plus de 50% des échanges commerciaux entre les pays du continent selon un rapport publié vendredi par le Fonds monétaire international FMI. Elle aurait également, une fois totalement opérationnelle, un effet important sur les échanges commerciaux entre l'Afrique et le reste du monde, avec une hausse des exportations de 29% et des importations de 7%. La conséquence serait une hausse de plus de 10% du PIB réel médian par habitant, souligne également le rapport. Et puis, environ 9700 personnes ont traversé la frontière vers la Centrafrique depuis le Soudan voisin, où des combats entre armées et paramilitaires en guerre pour le pouvoir font rage depuis 21 jours, a ainsi annoncé vendredi le bureau de coordination humanitaire de l'ONU OCHA en Centrafrique. Quelque 9700 personnes, dont 3460 rapatriés centrafricains, ont préventivement traversé la frontière du Soudan et sont hébergés par des familles d'accueil ou installés dans des campements spontanés dans la ville d'Amdafok, frontalière du Soudan, dans le nord de la Centrafrique. Leur nombre devrait augmenter en mesure que l'enregistrement se poursuit, a indiqué OCHA dans un communiqué transmis vendredi à l'AFP.
L'invité.
La République démocratique du Congo connaît une récurrence des catastrophes naturelles, incendies, accidents de circulation et naufrages, avec souvent d'énormes pertes en vies humaines. Pour faire face à cette situation, Martin Kanoumbedi, expert en protection civile, propose l'organisation urgente des états généraux de la protection civile en vue de mieux organiser ce service et permettre ainsi au pays de gérer ces catastrophes. Martin Kanoumbedi s'entretient avec Pierrot Elamenji.
Martin Kanoumbedi, bonjour.
Bonjour.
Vous menez plaidoyer pour l'organisation des états généraux de la protection civile. Quelles sont les motivations de ce plaidoyer?
Effectivement, nous menons un plaidoyer pour l'organisation des états généraux de la protection civile. Et d'entre deux jeux, il faudrait savoir que la protection civile, elle est importante parce que c'est un service qui permet de pouvoir répondre aux besoins de la population en urgence, en termes de calamités, catastrophes naturelles, accidents, tout genre d'urgence. En militant pour l'organisation des états généraux, c'est parce que nous avons compris que actuellement, ce qui se passe dans la ville démontre à suffisance que le service n'est pas organisé. Il faudrait plutôt faire un état des lieux, savoir à quel niveau nous en sommes et quelle serait la réponse adéquate face à tous ces désastres que nous sommes en train de subir, du genre accident, incendie, éboulement, comment répondre positivement aux besoins de la population.
Quand on parle de la protection civile, ça concerne quel domaine particulièrement?
La protection civile a deux grands piliers. Il y a le pilier incendie et puis le pilier service ambulancier. Le pilier incendie, c'est celui qui répond à tout cas d'incendie, tout cas d'éboulement. Nous pouvons avoir également les pompiers marins. Donc, tout ce qui a trait aux incidents, c'est ce qui a trait au service de pompiers. Et l'autre aspect, c'est le service ambulancier. Celui-là, c'est celui qui répond dans le cas où vous avez un accident et qu'il y a des victimes. Le service ambulancier envoie son personnel, qui travaille sous la coupole également de la protection civile, afin d'acheminer les victimes du lieu d'accident vers les centres de prise en charge.
D'une manière normale, comment doit être structuré les services de protection civile par rapport à ce qui se passe dans notre pays?
Normalement, nous devions commencer par la racine. La racine, ça veut dire que nous devons commencer par avoir une académie ou un collège de formation de la protection civile. Exemple donné au Sénégal, c'est depuis les années 73 qu'il y a l'Académie de la protection civile. Donc on commence par former le personnel et après avoir formé les personnels dans une académie, ces personnels sont des professionnels, on peut en ce moment-là leur donner les moyens nécessaires afin de pouvoir travailler. Et ces personnes doivent avoir un statut agent de l'État, de la police, de l'armée, dépend de l'option que le pays peut lever. Nous avons vu ailleurs où la protection civile dépend du ministère de l'Intérieur. Dans d'autres pays comme en Côte d'Ivoire, ça dépend du ministère de la Défense. Et bien sûr, le ministère de la Santé entre en jeu parce qu'on ne peut pas intervenir sans les paramédics qui font également partie de la protection civile. Pour ceux-là qui sont déjà sur le champ d'action, comme nos collègues qui sont des pompiers, on peut également donner une formation au travers de l'INPP, faire quelque chose pendant 3 à 6 mois pour les mettre directement en activité. Pendant que le collège est en train de faire pour une restructuration profonde de la protection civile, la cartographie même du pays afin de pouvoir diviser le pays par rapport aux besoins de la protection civile.
Et quand on regarde des grandes villes comme Kinshasa, comme Goma, Lubumbashi, où des problèmes se posent réellement, est-ce que l'organisation de ces services se passe nécessairement par l'achat des camions anti-incendie?
Voilà exactement là où se pose le problème. On ne commence pas par répondre par les conséquences. On commence par les cause profonde. Le problème, c'est que on donne un véhicule, les personnes doivent être formées, le véhicule doit être acheté avec un contrat sérieux dans lequel nous avons un contrat de maintenance, d'entretien et de formation. Mais le métier de sapeur-pompier, ce n'est pas prendre tout simplement la lance et aller éteindre le feu. Il y a la technique. C'est un métier aujourd'hui qui est un métier catégorisé comme métier à risque même de santé, qui peut engendrer même le cancer. Ces professionnels-là qui vont intervenir, ils doivent avoir la matière, la technique et une couverture santé également.
S'il faudra aujourd'hui adresser un message, que ce soit au chef de l'État ou au Premier ministre, sur cette question des états généraux et de la protection civile, quel pourrait être votre message?
Mon message serait direct au chef de l'État et au gouvernement. Nous sommes en train de prendre un envol sur le plan infrastructure et développement. Nous avons des immeubles qui pullulent partout. Il est temps de pouvoir se mettre en face et pouvoir en parler. Comment organiser les états généraux de la protection civile? Dans ces états généraux, nous allons définir comment ce service doit fonctionner, comment l'académie doit commencer, comment faire la cartographie, quel sera le lien entre la protection civile et le ministère de l'Intérieur, et le ministère de la Défense, et le ministère de la Santé, comment on va faire un programme d'éducation scolaire au travers du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, ou encore au travers du ministère de la formation professionnelle. Monsieur le chef de l'État qui nous écoute, vraiment c'est le temps de pouvoir se lever dans ce domaine parce qu'il y a péril à la demeure.
Martin Kanoumbedi, je vous dis merci.
Et voilà comment se referme cette édition de journal préparée par Alain Rongo, Pierrot Elamenji et l'ensemble de toute la rédaction. Billy Yvan Lutumba a assuré la présentation au nom de toute cette équipe. Nous vous disons sincèrement merci pour votre attention soutenue.